Venez vous rafraîchir chez Nesquik avec les irrésistibles glaces Ultimate en version cookie et peanut butter ou choco brownie. Nesquik, c'est bon à s'en lécher les doigts.
Les nuggets de Flanagan sont de délicieux beignets de poulet croustillants et bien dorés. Trempez-le généreusement dans la sauce que vous aurez préalablement choisie. Barbecue, chinoise, miel ou moutarde. Oh, c'est bon.
Chicken McNuggets, l'appétit vient en rayon.
Voilà, un petit medley de publicités qui donneront faim aux amateurs de fast-food, peut-être un petit peu moins aux autres. Et à la une de la science aujourd'hui, Héloïse, on parle de la dangerosité des produits alimentaires ultra transformés.
Oui Mathieu, ces produits qui ont subi d'importants processus de transformation industrielle ne sont pas bons pour notre santé. Dit comme ça, ça ne ressemble pas vraiment à un scoop. Mais aujourd'hui, on va parler de leurs dégâts sur notre mortalité qui sont rapportés dans une étude qui vient de paraître dans la revue JAMA. Nous sommes avec un des co-auteurs de l'étude, le docteur Bernard Sroure. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, vous travaillez dans l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM et de l'Université Paris 13. Alors, on parle de quoi exactement? C'est quoi ces aliments ultra transformés? Parce qu'on pense aux plats industriels, mais ce n'est pas que ça.
Tout d'abord, merci. En effet, les aliments ultra transformés, ce n'est pas que les plats. Donc, cette nomenclature, elle est basée sur la classification NOVA, qui est une classification qui a été créée par des chercheurs de l'Université de Sao Paulo au Brésil, donc qui classifie les aliments et les boissons en quatre catégories en fonction de leur degré de transformation. Donc tout d'abord, vous allez avoir la catégorie NOVA 1. Dans cette catégorie, on va avoir les produits dans l'état dans lequel on les retrouve dans la nature. Après de simples procédés de transformation, comme par exemple, on pourrait enlever la partie non comestible, on pourrait cuire à l'eau, donc vraiment des simples procédés. Dans la deuxième catégorie NOVA 2, on va avoir les ingrédients culinaires. Dans cette catégorie, on va avoir tous les ingrédients qui vont nous aider à préparer la cuisine, mais sans pour autant être consommés tout seuls, en particulier le sel, le sucre, l'huile. Dans le groupe 3 NOVA, on va avoir les aliments transformés, mais pas ultra transformés. Donc là, ça va être clairement des recettes qu'on pourrait obtenir dans notre cuisine en mélangeant des aliments du groupe 1 avec des ingrédients du groupe 2. Donc ça peut être des recettes de la plus simple à la plus compliquée, un ragoût, une soupe maison. Et dans le groupe 4, donc c'est le groupe qui nous intéresse surtout, c'est le groupe des aliments ultra transformés. Et là dedans, on va avoir en plus peut-être des aliments des trois premiers groupes, on va avoir des additifs alimentaires, on va avoir des ingrédients qu'on ne retrouve pas couramment dans la cuisine. On va avoir des additifs, on va avoir des émulsifiants, on peut avoir des colorants. Donc
en pratique, c'est quoi?
En pratique, c'est une large catégorie, mais on pourrait citer comme exemple les soupes déshydratées, les nuggets de poulet ou de poisson, les céréales de petit déjeuner, les barres chocolatées, même les boissons édulcorées ou les boissons sucrées industrielles.
Ouais, il suffit de lire les étiquettes pour voir qu'on en a énormément autour de nous, finalement, dans nos placards.
Oui, en effet, quand l'étiquette fait 15 lignes,
c'est de l'ultra transformé.
Voilà.
Et donc, vous êtes intéressé aux effets de la consommation de ces produits sur la santé et la mortalité. Expliquez-nous un peu comment vous avez fait.
Exactement. Pour le moment, on s'intéresse donc aux associations plutôt qu'à l'effet, pour le moment, de ces aliments ultra transformés sur la survenue des maladies chroniques et sur la mortalité. Donc l'étude que nous avons publiée lundi dans le JAMA se base sur les données de l'étude NutriNet Santé. Donc NutriNet Santé, c'est une étude sur la nutrition et la santé qui est basée sur le volontariat. C'est une étude en ligne, donc il suffit à n'importe qui de se connecter sur le site étude NutriNet Santé pour pouvoir participer à cette étude et aider la recherche. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte les données de ces participants, que ce soit les données des enquêtes alimentaires, leurs états de santé, des informations sociodémographiques sur leur mode de vie, s'ils fument pas, leur consommation d'alcool, leur activité physique. Et après, on étudie des corrélations ou des associations entre leur consommation alimentaire et leur état de santé, donc ici en particulier la mortalité.
Donc, et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez observé si on parle de ces aliments ultra transformés?
Au sein de cette étude-là, on a observé qu'une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans le régime, donc par exemple si on consomme 1 kg d'aliments par jour, la proportion d'aliments ultra transformés, donc ça va être la masse ou la quantité d'aliments ultra transformés sur ce 1 kg là. On observe que l'augmentation de 10% de la proportion de ces aliments ultra transformés était associée à une augmentation de 14% du risque de mortalité chez des adultes âgés de 45 ans et plus.
Et ils meurent de quoi, ces personnes?
Oui, ça veut dire quoi, effectivement?
Nous, ce que nous avons observé, c'est que c'était surtout de la mortalité liée au cancer et aux maladies cardiovasculaires. En effet, il peut y avoir plusieurs mécanismes qui pourraient expliquer ces associations-là.
Mais avant de parler des mécanismes, comment on est sûr que c'est ce facteur-là précisément qui joue et non pas, comme vous l'avez évoqué, la consommation de tabac, le sport ou des raisons socio-économiques tout simplement?
Alors vous avez tout à fait raison et c'est un problème qui nous est remonté souvent. Nous, ce qu'on fait dans nos modèles statistiques, c'est qu'on procède à une technique qui s'appelle l'ajustement. Et quand on ajuste sur un facteur, nous, on va ajuster sur les facteurs de mode de vie qu'on appelle les facteurs de confusion. Donc, par exemple, on va ajuster sur la consommation d'alcool, on va ajuster sur l'activité physique, sur le revenu, sur le niveau d'éducation. Et comme ça, on est sûr que les associations qu'on observe ne sont pas dues à un biais de confusion qui est lié, par exemple, au fait que les gens les plus aisés vont consommer moins d'aliments ultra transformés, vont avoir plus de maladies chroniques ou vont moins fumer, donc vont avoir moins de maladies.
Et comme vous le disiez, il faut le rappeler, on reste dans un lien de corrélation, donc c'est oui. Une association de d'éléments. On n'a pas encore de la preuve de la causalité.
Exactement.
De ce produit. Expliquez-nous un peu
la
ça.
La nuance, oui, c'est quoi?
Pour le moment, nous, ce qu'on observe, c'est des corrélations, c'est des associations statistiques. Mmh. Pour établir un lien de causalité en épidémiologie, le gold standard à faire, la démarche classique à faire, c'est de faire un essai clinique.
Mais c'est compliqué, là.
C'est compliqué de faire des essais cliniques, en particulier en nutrition.
Oui.
Et surtout quand on a des hypothèses délétères suspectées pour certains aliments.
Parce que concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait donner des plats ultra transformés à une population pendant un temps donné, ce qui, évidemment, éthiquement, n'est pas possible.
Voilà. Donc, pour ce faire, pour établir ou pour aller en faveur de la causalité, même si avec une seule étude isolée, nous ne pouvons pas le faire, il faut donc se baser sur plusieurs études d'observation et répliquer les résultats sur plusieurs cohortes dans plusieurs pays, et après confirmer les mécanismes dans des modèles in vitro, dans des modèles animaux, pour essayer de comprendre et...
Même si on n'a pas la preuve absolue, il y a quand même des hypothèses pour expliquer ces effets. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est?
D'accord. Nous, on s'est posé autour d'une table et on a dit qu'est-ce qui pourrait finalement être responsable de ces associations-là. Donc, on a pu dégager quatre hypothèses. La première, ce serait l'aspect nutritionnel de ces aliments ultra transformés. Donc, on remarque que sur le marché, en moyenne, ces aliments sont de moins bonne qualité nutritionnelle. Ils sont en moyenne moins riches en vitamines et fibres, et ils sont plus riches en sel, sucre et acides gras saturés. Donc, ces associations pourraient passer par ces aspects-là. Sauf que nous, dans nos modèles, on a essayé de contrôler sur ces aspects nutritionnels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les associations qu'on observe ne passeraient pas entièrement par l'aspect nutritionnel. Donc, il y a trois autres hypothèses qu'on peut évoquer. La première, c'est les additifs alimentaires. Donc, comme on a vu dans ces aliments ultra transformés, on peut avoir la présence de plusieurs additifs alimentaires, comme par exemple le dioxyde de titane, les nitrites, voilà. Et certains de ces additifs-là pourraient avoir des effets sur la santé, qui sont soit prouvés dans des modèles animaux, et même il commence à avoir un petit corps d'évidence dans les études populationnelles. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, ça va être ce qu'on appelle les contaminants néoformés ou les composés néoformés. Donc, c'est des produits qui sont pas censés être là au début de la recette et qu'on retrouve dans le produit fini, mais qu'on retrouve, par exemple, à cause du chauffage à haute température des glucides, des protéines, comme l'acrylamide, l'acroléine, qui pourraient avoir donc des effets sur la santé, en particulier l'acrylamide qu'on obtient après chauffage à haute température des glucides et des protéines a été classé comme probablement cancérogène par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Et le dernier?
Et le dernier, ça va être les matériaux d'emballage, parce qu'on sait qu'il y a par exemple des substances dans ces matériaux d'emballage qui risqueraient de migrer vers les aliments, en particulier le bisphénol A, qui pourrait avoir des rôles de perturbation endocrinien et causer des cancers liés aux hormones.
Merci beaucoup en tout cas, docteur Bernard Sroure, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste au sein de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM et de l'Université Paris 13. Merci à vous.
Merci.
Et Héloïse, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois depuis plus d'un siècle, une panthère noire a pu être photographiée en Afrique. Le cliché a été pris au Kenya grâce aux chercheurs du zoo de San Diego qui étudiaient les léopards dans la réserve Loasba Wildlife et du travail également d'un photographe indépendant. 8 appareils pièges munis de capteurs de mouvement avaient été mis en place dans la réserve en février dernier. Leurs images d'une femelle panthère noire sont la première confirmation de la présence de l'animal en Afrique depuis 1909. Opportunity, c'est fini. La NASA a officiellement annoncé que son rover mythique qui explorait Mars depuis 2004 avait rendu l'âme. C'est une des missions les plus fructueuses de l'histoire de l'exploration du système solaire qui se termine. Opportunity avait entre autres confirmé que Mars avait déjà eu de l'eau liquide à sa surface. L'heure était donc à l'émotion hier du côté de la NASA. Même si c'est une machine, eh bien c'est difficile de dire adieu. C'est poignant, a déclaré le chef du programme John Kallas. Le contact avait été perdu avec le robot en juin dernier et les messages que lui avait envoyé la NASA depuis étaient toujours resté sans réponse. Et puis des scientifiques américains de l'université du Maryland ont mis au point une fibre textile qui pourrait nous permettre de faire face aux caprices de la météo. Leur tissu a en effet la capacité de changer automatiquement ses propriétés pour piéger ou libérer de la chaleur en fonction des changements de température. Dans leurs travaux publiés dans le magazine Science, les chercheurs expliquent que le matériau est constitué de fibres enduites de nanotubes de carbone, ce qui rend les mailles de la fibre capables de se contracter ou se lidater et donc de retenir ou de laisser la chaleur s'échapper.